Vous écoutez
RMC.
Jeudi 21 mai,
l'info sur RMC.
Il est précisément 6h, très bon réveil à vous tous. Le journal de 6h, c'est avec vous Céline Kahneman. Bonjour Céline.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les élections municipales, deux scénarios sont sur la table. Un second tour fin juin ou un report du scrutin en janvier 2021. Décision samedi et décret la semaine prochaine. Plus de 100 personnes testées positives au Covid-19 dans un abattoir des Côtes d'Armor. Annonce de l'Agence régionale de santé. 110 morts ces dernières 24 heures en France. Dans l'actualité également, deux radiateurs électriques d'un vestiaire de Normandie Logistique peut-être à l'origine de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. C'est en tout cas l'une des pistes envisagées par les enquêteurs, selon le journal Le Monde. Bienvenue à tous sur RMC. Le gouvernement, accaparé par la crise du Covid-19, envisage donc un second tour des municipales le mois prochain ou alors beaucoup, beaucoup plus tard en janvier 2021. Hier soir, Édouard Philippe a reçu à Matignon les chefs de parti. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, était également présent. Pas encore de décision donc, mais deux scénarios sur la table. Pierre-Yves Bonneau.
Le Premier ministre écarte désormais l'hypothèse de septembre en raison de la rentrée scolaire, selon plusieurs responsables de parti. Compliqué également à l'automne, explique Édouard Philippe, avec l'examen du budget au Parlement. Impossible d'interrompre les débats pour faire campagne, car si le scrutin est reporté après l'été, il faudra refaire le premier tour comme la loi l'oblige. Des responsables politiques très frileux à l'idée de se prononcer eux-mêmes sur ce second tour. Personne ne voudrait être pointé du doigt en cas de contamination massive lors du scrutin. Mais tous sont ressortis de Matignon avec la même impression. Le chef du gouvernement a déjà décidé, ce sera le 28 juin. Selon l'un des participants, le Premier ministre rendra sa décision publique ce samedi pour un décret publié au plus tard, mercredi 27 mai.
Parmi les réactions, celle du président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Pour lui, un scrutin en juin risque d'éliminer tout débat démocratique avec une campagne particulière sans réunion publique. A l'inverse, Christian Jacob estime que si les conditions sanitaires sont réunies, alors il est favorable à la tenue des élections le plus rapidement possible. 110 personnes sont mortes ces dernières 24 heures en France, toujours moins de patients admis en réanimation pour le Covid-19. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a précisé qu'il était encore trop tôt pour savoir si le déconfinement entraînait ou non un rebond de l'épidémie. Il faut au moins 10 à 15 jours pour le savoir. Une campagne de tests massifs a en tout cas été menée dans un abattoir des Côtes d'Armor. Résultat, plus de 100 personnes ont contracté le Covid-19. Jean-Baptiste Bourgeon.
Oui, 109 personnes au total contaminées. C'est ce que révèle la deuxième campagne de dépistage massif à l'abattoir de Kéméné. Cela représente 44 nouveaux cas supplémentaires en moins d'une semaine. Vendredi, lors d'une première série de tests, 65 salariés ont été testés positifs. Il s'agissait surtout de collègues proches des premiers cas recensés dans l'abattoir. L'ARS a ensuite poursuivi et élargi ses investigations sur plus de 800 salariés. Résultat, 109 personnes contaminées dans ce grand abattoir breton qui fournit l'ensemble des magasins Leclerc.
Merci Jean-Baptiste. Le port du masque obligatoire aux heures les plus fréquentées dans l'hypercentre de Strasbourg. Un arrêté en ce sens a été pris hier. L'épidémie n'est pas derrière nous, ne relâchons pas nos efforts. Tweet hier d'Emmanuel Macron, alors que de nombreux Français ont prévu de retrouver leur famille, leurs amis pour ce long week-end de l'Ascension. D'ailleurs, les contrôles pour savoir si la distance des 100 km sont renforcés, respectés sont renforcés. Il faut avoir un motif impérieux pour se déplacer loin de chez soi, ce qui n'est pas toujours le cas, comme a pu le constater le commissaire Michel Lavaux, porte-parole de la police nationale.
La police nationale sera là pour empêcher des comportements irresponsables ou inconséquents. Dans les infractions qui sont relevées, je peux vous en donner une. C'est une personne qui fait 118 km et comme motif pour dépasser ces 100 km, elle indique qu'elle veut aller récupérer des crêpes à emporter. Donc je pense que vous conviendrez avec moi que c'est pas un motif suffisant pour dépasser la distance de 100 km et donc elle a été verbalisée. Ça s'est passé à Saint-Nazaire le week-end dernier. Le message essentiel est de ne pas gâcher l'amélioration de la situation sanitaire pour ce week-end de l'Ascension. Les contrôles seront affinés partout en France, sur le littoral, en ville et à la campagne.
L'office HLM de Bobigny a voté l'annulation des loyers promis par la ville en pleine crise de coronavirus malgré une requête de la préfecture qui demandait le report du vote pour des questions de droit. Le constructeur Renault se prépare à un traitement de choc avec un plan d'économie de 2 milliards d'euros, la fermeture de 3 sites, dont celui de Choisy-le-Roi, 263 salariés dans le Val-de-Marne, des salariés rencontrés hier par Mao Bécagranier et Martin Bourdin qui sont surpris et résignés.
L'usine de Choisy-le-Roi fait partie du quotidien de Steve depuis 18 ans. 18 ans qu'il y travaille tous les jours. Alors l'annonce de cette fermeture potentielle l'a évidemment bien sauté.
Il va falloir penser à autre chose, hein, c'est tout. De toute façon, on n'y fera rien de plus. Hein. Me battre contre qui, pourquoi ? On verra ce qu'ils proposent d'autres.
Hein. Et c'est d'autant plus difficile à digérer pour Florence, 22 ans d'ancienneté, qu'elle ne pouvait pas l'anticiper.
On est surpris parce que voilà, ça fonctionnait bien. Pour nous, on a beaucoup de boulot. On ne sait pas, on ne comprend pas.
Tous attendent donc les explications de Renaud, le maire de Choisy-le-Roi, Didier Guillaume aussi. Il met en garde l'entreprise.
Il ne faudrait pas que l'histoire du Covid soit un alibi à une fermeture. On sait très bien que si ce plan de restructuration a été pensé, il n'a pas été pensé dans les 15 derniers jours. Ça veut dire que c'était déjà dans les tuyaux.
Il s'inquiète aussi des conséquences d'une éventuelle fermeture pour sa commune.
Ses salariés habitent à Choisy-le-Roi, s'impliquent dans la vie sociale, culturelle, économique de notre commune.
Fermer cette usine serait donc pour lui une hérésie, surtout que le site s'était inscrit, selon l'élu, dans une démarche vertueuse pour donner une deuxième vie à des pièces de moteurs usagées.
De moins en moins de personnes touchées par le Covid-19 en France, mais ce n'est pas le cas dans le reste du monde. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur un nombre record de contaminations en une seule journée, 106 000 cas. Près des deux tiers de ces cas ont été déclarés dans quatre pays, l'Arabie Saoudite, la Russie, le Brésil et les États-Unis. Les États-Unis où plus de 1500 personnes sont décédées ces dernières 24 heures. Dans l'actualité également, du nouveau dans l'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, c'était en septembre dernier. Selon les investigations auxquelles le journal Le Monde a eu accès, l'incendie pourrait trouver son origine dans les entrepôts de l'entreprise voisine Normandie Logistique, qui ont également brûlé. Maxime Brandstatter.
Ici, l'incendie de Lubrizol était parti de radiateurs électriques. C'est le journal Le Monde qui révèle cette piste envisagée par les enquêteurs. Des radiateurs situés dans un vestiaire de Normandie Logistique, la société voisine de Lubrizol, un endroit qualifié de vétuste par l'enquête. Les salariés interrogés, eux, décrivent un lieu qui servait aussi pour la pause déjeuner, une toiture qui prend l'eau et tous les appareils électriques branchés sur une même multiprise. D'après les enquêteurs, des vêtements auraient pu être déposés sur ces radiateurs électriques pour sécher et auraient alors pris feu. Autre élément, l'alarme incendie a d'abord sonné chez Normandie Logistique, puis trois minutes plus tard chez Lubrizol. Déterminer l'origine précise du feu reste essentiel dans cette affaire où les deux sociétés voisines se rejettent la faute. Pour l'avocate de certains sinistrés, dans tous les cas, aucun scénario n'exclut pour l'instant la responsabilité de Lubrizol.
Fini les cigarettes au goût menthol, elles ne peuvent plus être vendues dans l'Union européenne et donc en France, des cigarettes associées à une plus grande addiction. À Lyon, Florence Donjon, Olivier Chantreau.
Dans le bureau de tabac d'Hervé Berger, plus aucune cigarette mentholée depuis 10 jours déjà. Elle représente entre 10 et 12% de ses ventes. L'enjeu financier est donc énorme pour ce commerçant.
Ça va être ou un manque à gagner, ou si les personnes vont arrêter de fumer à cause de ça, ou d'autres focalisent sur autre chose, sur du produit plus genre vapotage.
Née dans les années 1930, la cigarette mentholée a surtout la cote auprès des femmes, comme Christelle, une Lyonnaise de 39 ans, qui n'a pas l'intention d'arrêter de fumer pour autant.
Je vais changer et passer au light. C'est un plaisir, c'est un moment convivial que je partage quand je suis avec des amis.
Pour elle, la cigarette mentholée était synonyme de fraîcheur.
J'avais la sensation de ne pas avoir ce mauvais goût de la cigarette dans la bouche.
Une sensation qui fait du menthol un redoutable outil d'addiction, selon le docteur Marie Maléco, tabacologue au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc.
Le menthol augmente l'absorption de la nicotine et vous n'êtes pas sans savoir que la nicotine, c'est la drogue du tabac. Donc ça rend les gens beaucoup plus accros.
Les professionnels de santé plaident désormais pour l'interdiction du menthol dans les cigarillos, le tabac chauffé ou encore les cigarettes électroniques.
Reportage est signé Florence Donjon, Olivier Chantreau.
Merci Céline. Il est 6h08, le reportage de la rédaction. Je vous le disais, il y a ceux qui rient puis il y a ceux qui pleurent avec cette espèce de déconfinement, mais qui n'est pas un déconfinement total. Le week-end de l'Ascension débute donc aujourd'hui. Et dans le sud-est de la France, les conditions météo sont idéales. Loïc Rivière vous l'a dit il y a un instant, pour profiter de ce déconfinement. Enfin bon, moi on parle de déconfinement, mais je le vois pas trop. La vie reprend doucement dans le vieux Nice. Les acteurs de la restauration sont partagés entre la joie de reprendre et l'amertume de ne pas retrouver la fréquentation habituelle. Ascension, les acteurs du tourisme entre joie et inquiétude, amertume. C'est à Nice, un reportage RMC de Caroline Philippe et Romain Cluzel.
Alors pour moi, je vais vous prendre une deux boules aussi. Devant les 97 bacs de glace, quelques Niçois patientent dans la file d'attente aménagée pour respecter les mesures sanitaires. De quoi redonner le sourire à Frédéric Fenocchio, artisan glacier.
C'est la vie qui reprend, voilà. Surtout que là, en plus, bon, comme on a la clientèle locale, c'est vrai que ça fait plaisir de revoir les gens qu'on a l'habitude de voir toute l'année.
Une semaine après sa réouverture, il anticipe une reprise de la fréquentation pour ce week-end de l'Ascension.
On a augmenté un petit peu le stock sur les gros parfums, la vanille, le chocolat, le citron. On en a un petit peu plus que ce qu'on avait la semaine dernière. Voilà. On a espoir que les gens sortent, viennent consommer chez tout le monde, que tous les commerces puissent travailler.
À quelques ruelles de là, le restaurant de Jean-Charles Mercier est calme. C'est moins évident de vendre des plats à emporter. En une semaine, son chiffre d'affaires atteint celui d'une journée habituelle. Et selon lui, le week-end de l'Ascension n'y changera rien.
Il y a quelques locaux qui sortent, mais encore même pas tous les Niçois. On ne s'attend vraiment pas à faire un week-end de l'Ascension tel qu'il se doit, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait un regain d'activité durant ces jours-là. Et quand bien même, il serait infime dans tous les cas.
Ces frémissements restent anecdotiques aux yeux de Denis Cipollini, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Alpes-Maritimes.
On n'y est pas du tout. Il y a quelques glaciers qui sont ouverts, il y a de la vente à emporter, mais ça représente entre 3 et 5% de notre activité de restauration. Ce week-end, habituellement, c'est le week-end du Grand Prix de Monaco, c'est le week-end du Festival de Cannes, c'est le week-end où il y a le plus de monde sur la Côte d'Azur, à part le 15 août. Et puis cette année, il n'y a rien du tout. Donc ce que l'on espère, c'est que ce week-end passe vite.
Tous n'attendent désormais qu'une date, le 2 juin, avec la possible réouverture des cafés, restaurants et hôtels dans ce département classé vert.